Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec aujourd'hui Benjamin Bécher. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Benjamin Bécher, tu es ici pour nous parler d'une exposition qui débutera ce 28 juin à la librairie Mosaïque. Une innovation aussi pour cette librairie qui propose un lieu donc, d'exposition. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 2 août. Et il s'agit de présenter des photographies qui émanent d'un ouvrage de photographie édité chez André Frère Édition. On en parlera rapidement avec aussi. Et donc, il s'agira de photographies qui ont été prises lors d'une captation opérée entre 2000 et 2024 sur le plateau du Vercors. Donc, essayer de capter l'âme de ce qui existe sur ce plateau. C'était au départ cette initiative, pourquoi cette envie de photographier ce plateau?
C'était un peu un angle mort, le Vercors. Je connais pas mal les Alpes, je suis savoyard. Et avant d'habiter dans le Diois, je connaissais pas le Vercors. On m'en parlait, mais c'était un endroit où j'avais très peu passé, très peu séjourné. Donc j'ai commencé par m'y balader. J'étais entre deux projets. J'ai commencé à passer du temps dans des cabanes, chez des copains, dans le Trièvre. Et je voulais voir ce que je pouvais ressentir en passant du temps et trouver des idées sur le terrain, dans la forêt. Donc voilà, je suis parti de là, par des balades.
Le plateau du Vercors, c'est peut-être aussi ce mystère. Qu'est-ce qui existe au-dessus de cette élévation qui est entourée entre Grenoble, le Vercors, le Diois, le Royan? Il y a un peu, ça me fait penser à cette image des premiers Tarzans, je ne sais pas, des années 30, où il fallait accéder par des montagnes et des vires très étroites pour accéder à ce sommet, à plein d'embûches.
Il y a pas mal de raisons qui donnent sa singularité, je pense, au Vercors. Et quand j'en parle aussi à des personnes qui sont d'autres coins ou même d'autres pays, j'ai l'impression que chacun a son Vercors, son endroit un petit peu isolé, son plateau qui grandit un petit peu à l'écart des autres, qui par son isolement en fait a suivi une voie qui lui était propre. Et puis après, c'est vrai qu'au XXe siècle, avec une histoire assez particulière, c'est venu encore enrober ce plateau d'une atmosphère un peu mélodramatique et puis assez particulière.
Alors, cette exposition, plutôt des prises de vue de paysages, d'humains aussi, d'habitants, donc, quelle quête il y avait dans ces prises de vue?
Alors, comme je te le disais, je suis parti du terrain, donc j'ai passé pas mal de temps avant de commencer à faire des photos, et ce que j'ai noté, c'est une certaine connaissance naturalistique des habitants, quoi. Un goût pour la faune, la flore, le sauvage. Et c'est assez normal, parce que c'est une grande réserve naturelle. Je crois que c'est la plus grande réserve naturelle terrestre de France. Et j'ai commencé à voir ça apparaître et je me suis dit que ce serait chouette de commencer un petit peu à documenter la façon dont les femmes, les hommes, les enfants connaissaient le territoire à travers leur approche naturaliste. Donc j'ai commencé à passer du temps avec des chasseurs, des naturalistes amateurs, des gens de l'LPO, des forestiers de l'ONF, tout ce beau monde, et j'ai essayé de documenter des scènes qui soient emblématiques ou qui questionnent leur rapport au milieu naturel. Voilà, c'était un petit peu ça, c'est le fil que j'ai voulu tirer dans ce livre.
Ces photographies sont de quel type, argentique ou numérique? Argentique.
Ouais.
Et d'ailleurs, au vu du livre Le Clan, donc on peut voir ces photographies. Il y a peut-être un papier barité aussi qui est utilisé pour...
Donc c'est de l'argentique, c'est du moyen format, c'est du 6-6. Moi, je travaille en format carré depuis 20 ans maintenant. C'est un format qui m'habile vraiment. Ensuite, je numérise ces photos souvent et je les tire sur du jet d'encre ou des fois, je les fais tirer également sous forme plus analogique. Là, dans le livre, c'est de l'offset, donc c'est de la bichromie, ce qu'on appelle. C'est un tirage offset avec deux encres différentes. Les encres sont souvent faites sur mesure au fil des projets. C'est un très, très bel imprimeur en Italie. Et le papier, c'est un beau papier italien qui s'appelle le Gardapâte, qui est un peu crème. Tu as noté, donc c'est un papier couché. Les papiers couchés ont des apprêts pour les impressions offset. Tu as noté le côté barité. Il a effectivement une toute petite brillance, un apprêt, un peu de matière. C'est un très beau papier. C'est vraiment un livre à l'ancienne.
Et surtout, une grande richesse de tonalité hein, dans les gris. Ça amène quelque chose de très chaleureux, en tout cas, dans ces prises de vue.
Ça me fait plaisir que tu aies noté ça. Il y a effectivement beaucoup de demi-teintes, beaucoup de variations dans les gris, dans les noirs. Ce sont des photos assez dense. Moi, j'aime bien la densité, j'aime bien le noir dans le noir et blanc. Et du coup, il fallait de la finesse, justement, dans les détails, pour montrer que ce soit des éléments végétaux ou des détails qui nous racontent des histoires.
Et puis, ça mène justement au niveau des détails, le temps d'observer et de découvrir un peu chaque personnage ou chaque image et l'histoire qui s'en dégage également.
C'est ce que j'aime, moi, dans le livre photo. Hein. C'est vraiment de pouvoir voyager, prendre son temps, le rentrer, le sortir, le consulter de temps en temps. Et moi, je photographie souvent des scènes assez lointaines dans lesquelles il y a beaucoup d'éléments. Les éléments humains sont souvent pas très grands. Il y a des choses à voir. Et j'aime bien le côté mise en scène, scénographie, en fait, de ces photos. Donc, c'est un petit peu l'ambition. Hein, c'est de raconter des petites histoires et au fil des pages, de se raconter une grande histoire, un scénario que chacun peut alimenter à sa guise et rêver avec.
Comment se passent justement ces prises de vue avec ces personnes photographiées? Est-ce qu'il y a d'abord un dialogue qui s'opère, une découverte mutuelle aussi, chacun, le photographe que vous êtes et peut-être l'artisan que vous prenez en photographie?
Des fois c'est long, des fois je prends du temps, je passe beaucoup de temps avec des gens, des fois je passe très peu de temps avec eux et je fais un portrait que je mets en scène parce que j'ai une idée précise. Donc c'est assez variable. J'aime bien revoir quand même plusieurs fois les personnes qui m'accordent leur confiance. J'aime bien quand elles m'oublient un petit peu, mais j'ai quand même un dispositif assez complexe. Notamment, j'ai un flash assez puissant, un appareil aussi qui n'est pas tout petit. Donc l'un dans l'autre, je suis quand même assez visible. Donc il me faut quand même la confiance de la personne qui est en face.
Et puis le moyen format nécessite parfois quelques aspects techniques, hein, de réglage.
Oui. Oui,
d'ailleurs, vous êtes plutôt photographe d'une prise ou alors il y en a d'autres qui mitraillent et qui feront un choix ensuite. Mais vous préparez vraiment cette prise de vue avant d'appuyer sur le bouton?
Ça dépend de mes travaux. Sur ce travail-là, c'est assez intuitif. Je suis obligé des fois de varier un petit peu les prises de vue parce que avec le flash et avec l'éclairage en noir et blanc, en argentique, on peut avoir des surprises. J'ai un flashmètre, je connais bien la puissance de mon flash, je connais bien la façon dont les conditions lumineuses vont se passer avec ma pellicule, que je connais par cœur aussi. Mais des fois, je peux avoir des surprises, donc je double ou je triple, des fois en variant un petit peu l'intensité de mon flash ou l'exposition. Mais globalement, je shoot assez peu.
C'est une promenade hein, sur ce plateau. Mm-hmm. Vous avez pu parcourir quel territoire l'ensemble du plateau où il y a des zones peut-être qui vous ont plus arrêté.
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que longtemps le Vercors a été divisé en deux zones. Hein. Avant d'être considéré comme un seul massif, il a été séparé entre, en tout cas dans l'esprit des gens, entre le secteur 4 montagnes, hein, la partie plus Isère et la partie plus réserve dans la Drôme. Aujourd'hui, on le voit comme quelque chose d'unique. J'ai passé globalement plus de temps dans le sud parce que j'aime beaucoup. Je la trouve plus sauvage, plus rurale. Elle est aussi, il faut le dire, hein, plus pauvre que la partie nord, qui est plus proche de Grenoble, d'infrastructures, de gares, etc. J'ai essayé quand même de faire le tour des contreforts. J'ai essayé de m'y perdre, mais on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Et c'est ce qui est riche dans ce massif. C'est que plus on s'y perd et plus on le découvre. Et ensuite, quand vous entendez des gardes qui sont là depuis 20 ans et qui vous disent « plus je le fréquente, moi je le connais », ça vous amène un petit peu de modestie sur ce que vous pouvez ramener de ce plateau, en fait.
Les prises de vue de paysage, c'est aussi la contemplation, une réflexion aussi sur la disposition du trépied avant de procéder à la prise de vue.
Pas tant, c'est du temps passé au bon moment, c'est quand vous êtes en bas à Die et que vous voyez une petite chape nuageuse à la col de Rousset, donc vous imaginez qu'il y aura des éclaircies. C'est la lumière quand même qui fait beaucoup au Vercors, c'est aussi la succession des saisons et le goût petit à petit d'apprécier chaque moment de l'année, d'apprécier des couleurs ou des tonalités qui au début ne nous sautaient pas aux yeux à certains moments de l'année plus ingrats que le printemps ou l'hiver. Et on découvre la richesse de certains coins de forêt en les fréquentant et ou aussi parce qu'on nous les montre. Il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup pris par la main pour me montrer certaines choses.
Vous disiez tout au long de l'année, donc toute saison, il y a des photographies d'hiver. Justement, il y a aussi cette possibilité pour vous d'aller au-delà de cet aveuglement de la neige, donc pour y trouver des tonalités très subtiles. Vous utilisez un moyen d'exposition aussi qui permettent d'aller saisir au plus près.
C'est vraiment des méthodes traditionnelles argentiques. Hein. C'est, comme je vous le disais, c'est un travail à l'ancienne. Hein. Et le livre aussi, de par l'impression offset, la sérigraphie, c'est vraiment quelque chose un petit peu dans les règles de l'art, telles qu'était la photographie artisanale, je pense, des années 50 jusqu'aux années 90. Donc, c'est une pellicule qui a une grande latitude d'exposition, qui est fabriquée par Ilford, qui est un très grand fabricant de pellicules. Elle est très connue, elle a été utilisée par de nombreux photographes. Donc, elle vous permet déjà, si vous vous êtes planté, de pas mal vous rattraper. Et ensuite, avec des développements appropriés et des outils ensuite jusqu'au tirage, elle vous permet d'avoir beaucoup de dégradés. J'ai un flashmètre, moi. Donc, c'est un instrument c'est un pose-mètre qui permet de mesurer la lumière en dehors de l'appareil photo. Et je sais à peu près où j'en suis entre les ombres et les lumières. Si vous voulez, en photo, vous voyez une scène devant vous et vous essayez un petit peu de penser l'écart d'exposition, la latitude entre le noir et le blanc. Qu'est-ce que vous allez privilégier? Qu'est-ce que vous allez perdre si vous privilégiez l'un ou l'autre? Et c'est toujours un petit peu ces choix qu'on fait à la prise de vue qui vont se répercuter plus tard. J'aime bien imaginer qu'on fait beaucoup de travail à la prise de vue et faire assez peu de choses au final, si vous voulez. Et pareil avec le flash, en fait, tout est fait pratiquement à la prise de vue. J'aime bien cette idée-là, le fait qu'il y ait une certaine expertise sur le moment qui donne, je trouve, de la valeur à la matière photographique.
Et l'argentique, vous avez procédé vous-même au développement sur papier ?
Non, j'aurais adoré, mais je n'ai pas énormément de temps, tout le temps, entre la vie de famille, mon métier de photographe, qui me prend pas mal de temps.
Donc, c'est quand même un travail aussi de partenariat avec l'imprimeur pour trouver...
Tout à fait, j'ai fait ni le développement, donc il y a deux parties, il y a le développement de la pellicule en elle-même, qui n'est pas très compliqué, et ensuite il y a le tirage. Là, le tirage, c'est notre paire de manches. C'est un vrai artisanat d'art, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait tirer correctement le noir et blanc sous un agrandisseur, c'est vraiment quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps, qui a une vision de la photographie. Et ça, moi, j'ai fait du tirage, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des tirages aussi beaux.
Justement, sur ce décor, il y a ce calme, hein, ce silence, cet arrêt, hein, peut-être aussi, du temps. Est-ce que c'est se retransmet, justement, par rapport à se retranscrit sur ces photographies, on sent que le temps s'arrête. Et on s'imagine que vous prenez le temps de photographier... Est-ce que les expositions sont plutôt instantanées ou alors il y a quelques fractions de secondes d'exposition ?
Non, c'est instantané.
Oui.
C'est instantané. Je ne sais pas sous quelle forme, effectivement, le fait que le Vercors sorte du temps nous apparaît à nous, promeneurs, photographe ou autre, mais en tout cas, il est vrai qu'il donne l'inclinaison aux gens qu'il fréquente, qui est assez vrai, ouais, qui donne l'impression d'arrêter le temps un petit peu. Ouais, vous avez raison.
La photographie que vous présentez sont de quelle dimension en général ?
Alors l'exposition que je vais présenter à Mosaïque a été produite par la ville d'Oslon, qui a fait une première exposition pendant la Nuit des Forêts, voilà, qui a duré quelques jours. C'était une exposition temporaire dans le beau temple d'Oslon, où on a fait une très belle fête. Donc j'ai profité d'avoir ces tirages pour les présenter à Mosaïque, puis ensuite dans d'autres librairies de la Drôme ou de l'Isère qui voudront bien les accueillir. Donc là, c'est un mélange de trois formats, de 30x30, tiré plein cadre, de 40-50 avec une petite marge blanche et de 60-80 avec une Marie-Louise. C'est toujours sympa de pouvoir mélanger les formats pour, dans la narration, pouvoir raconter quelque chose qui soit un petit peu complexe.
Le titre du livre que l'on peut trouver aussi lors de cette exposition à la librairie Mosaïque s'intitule Le Clan. Alors, pourquoi ce titre ?
Bon, le titre, c'est quand même toujours quelque chose d'assez compliqué. Ce qui m'a plu dans le clan, en fait, je l'ai sorti d'un petit mot de présentation que j'ai mis dans le livre. J'avais besoin de parler de ce que pouvait être une famille élargie, de ce qu'on pouvait mettre dans un groupe d'individus, mais aussi d'animaux, de plantes, qui sont ensemble sans qu'on connaisse vraiment bien leur lien de parenté, la façon dont ils sont rentrés en contact. Et le clan, par son origine écossaise, rurale et assez ethnographique, je trouvais que ça représentait bien ce que je voulais dire des habitants du Vercors.
Ces photographies se suffisent-elles à elles-mêmes ou alors est-ce que parfois des pensées ou des textes vous viennent en tête et peut-être d'amener une légende sur ces images?
Alors les textes que vous trouvez dans le livre sont des extraits d'entretiens que j'ai menés hein, avec chacun. J'en ai gardé vraiment des très très courts extraits, une vingtaine de petits extraits qu'on trouve au fil du livre. Et ce sont des extraits qui portent précisément sur le rapport au milieu naturel. Ce sont des phrases qui des fois paraissent un petit peu ingénues, un petit peu naïves, mais qui, quand on les prend en compte avec la connaissance du milieu que qu'ont ces personnes, qui sont en fait très profondes. C'est très dur de parler de notre rapport à la nature sans être tarte à la crème. Et ils le font très bien. Il faut simplement prendre le temps de se rendre compte de la profondeur de ces mots-là. Donc j'ai voulu mettre en valeur ces paroles-là. Et je les ai éparpillées dans le livre sans que les paroles correspondent au portrait des gens qui sont en face, si vous voulez. Pour vraiment mélanger la parole du chasseur à celle du garde, à celle du forestier. Qu'on ne soit pas dans chacun qui défend une vision de la conservation, de l'exploitation de la nature, mais au contraire, pour mélanger le tout, pour montrer la richesse de la vision de chacun sur ce qu'on peut ou doit ou aimerait faire avec le milieu naturel.
Ce que je voulais savoir aussi, c'est, sans être édité, mais est-ce que vous tenez en quelque sorte un journal de ces prises de vue
oui.
Et peut-être de décrire un peu la situation de chacune d'elles?
Oui, je prends des notes sur les endroits où je passe, où j'aimerais repasser. Alors, des fois, ça prend la forme d'un joli carnet romantique avec un stylo, mais des fois, le smartphone, c'est pas mal aussi, notamment quand on peut les géolocaliser des endroits, des prises de vue ou des moments... avec des cartes, voilà, et les prises de son ont été faites avec un petit dictaphone, simplement pour pouvoir me remémorer la parole des gens. Je collectionne aussi des petits souvenirs que je glane à droite à gauche.
C'est la première édition de vos photographies, cet ouvrage intitulé Le Clan.
C'est la première monographie. J'ai fait des ouvrages collectifs. J'ai appartenu ou créé des collectifs, des agences de photographes, des coopératives avec lesquelles on a fait des ouvrages collectifs. Et là, c'est la première fois que je réalise une monographie.
Et d'ailleurs, en quelque sorte, c'est une consécration d'être donc chez André Frères Éditions.
Oui, ben André, c'est un éditeur historique du monde de la photo. Donc, ça fait 30-40 ans qu'il fait des livres avec des grands noms de la photo. Il est de tous les salons, voilà. Il est très impliqué dans ce qu'il fait. Le livre a été conçu, désigné par un graphiste d'Iwa qui s'appelle Mithil Ducomet et qui, avec sa compagne Léa, ont agence qui s'appelle l'Atelier Musli. Et Mithil est un... très grand connaisseur de l'objet imprimé. Et si le livre aujourd'hui a cette forme, c'est en partie grâce à lui. André nous a accompagnés dans les choix qu'on pouvait faire. Et puis, c'est ensuite lui qui fait toute la partie commerciale de présence dans les salons et dans les festivals.
Ce livre sur ce paysage du Vercors, c'est un des aspects de votre travail? Vous opérez aussi le portrait ou d'autres types de travaux, lesquels?
Alors, il y a d'une part ma photographie commerciale hein, qui me permet de vivre, donc qui là est une photographie de reportage et de portrait en numérique hein, pour des clients, qu'ils soient institutionnels ou privés. Je travaille pas mal pour la presse aussi, magazine. Voilà. Pour ce qui est plus de la partie artistique, depuis 5-6 ans, je travaille en noir et blanc sur le milieu naturel. En même temps que le clan, j'ai commencé un travail sur les forêts en France, où je m'attelle à documenter notamment les forêts qui souffrent dans toutes les régions de France et notre rapport à la forêt, la façon dont on se la représente. Donc, j'ai fait des choses assez différentes, hein, plutôt axées sur l'humain, dans le passé, mais depuis quelques années, je me spécialise quand même sur l'évolution du rapport au milieu naturel.
Le noir et blanc, pour vous, vous pratiquez la photographie couleur pour des commandes, certainement, mais peut-être sortir toute la poésie, de ce site du Vercors, le noir et blanc vous paraît plus judicieux?
Alors, j'adore la couleur aussi, hein, et je suis très attaché, mais pour ce projet, le noir et blanc était vraiment approprié. D'une part, il permet de lisser les saisons, de se séparer de certaines couleurs, des fois un petit peu embarrassantes, à l'automne ou au printemps. Il permet aussi une représentation plus mentale, plus antérieure, qui correspondait à ce que j'avais envie de raconter. Donc, il enlève certains détails, il en rajoute, mais il permettait de tenir le propos que je voulais tenir dans ce projet-là.
Par rapport à un paysage, vous pratiquez des tournées, j'imagine, pour repérer des endroits. Mais une fois sur place, comment se procède la prise de vue? Est-ce qu'il y a un temps de latence, en quelque sorte, avant d'opérer à la prise de vue? Il y a une imprégnation du terrain aussi, du paysage?
D'abord, tout dépend comment elle a été imaginée. Autant au début, une fois que j'ai commencé à tirer mon fil des connaissances naturalistes, ça partait un peu dans tous les sens. Plus ça allait, plus je cherchais des choses précises à mettre dans l'histoire. Plus j'essayais de mettre en scène, plus j'essayais d'être à un certain moment pour pouvoir avoir les scènes qui me manquaient, quoi. Il y a, je pense, comme dans tout travail de création, des moments immédiats, d'autres plus laborieux, plus construits. Et au fil de l'écriture, du projet, de la création, on pioche ou on subit dans ce qu'on peut.
Il y a un événement important actuellement, c'est celui de l'intelligence artificielle et justement de cette création numérique de l'image photographique. Il y a une grande marge entre ce que l'humain propose et sa créativité et cet aspect numérique qui laisse à désirer pour les spécialistes de la photographie. Mais est-ce que vous subissez peut-être les premiers contre-coups de cet avènement? Au
non,
niveau professionnel
Non, pas encore. On en parle avec les collègues. On se demande quelle forme ça va prendre et quand ça va arriver. Ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Il y a toute une partie des prises de vue dont la force, c'est la rencontre, c'est la relation humaine. Et ça, vous ne pouvez pas la remplacer. Même dans une photographie commerciale, si je réalise un portrait, la moitié de ma force, de mon job, c'est la rencontre avec la personne qui est en face de moi. Et c'est ça dont elle va se souvenir, en plus de la photo qui lui reste. Peut-être que pour des utilisations vraiment commerciales ou plus pratiques, oui, l'IA va sûrement pouvoir réaliser des banques d'images, va pouvoir créer peut-être... en tout cas, répondre à toute une somme de besoins, ça j'en doute pas. Mais que ce soit pour la poésie ou la rencontre, elle va mettre du temps, j'espère, avant d'y arriver.
Est-ce que l'intelligence artificielle est sensible? Ça, c'est une autre question pour le moment posée. Combien de photographies sont proposées à cette exposition?
Alors, la salle d'expo de Mosaïque n'est pas très grande. C'est une cave voûtée très belle qu'on a aménagée avec Christophe. Donc, je pense que je propose entre 25 et 30 photos. C'est assez dense. J'ai voulu tirer parti du côté cave pour faire quelque chose d'assez chargé qui nous plonge dans une ambiance un peu profonde, présente. Aujourd'hui, l'expo que j'ai à disposition a une quarantaine de photos. Dans le livre, j'en présente 75. Donc à terme, quand j'aurai, j'espère, une exposition un peu plus de grande ampleur, peut-être dans un festival, j'espère pouvoir présenter une quarantaine, cinquantaine de photos.
D'autres paysages vous inspireraient aussi à travailler?
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, comme je vous le disais, la force de ma rencontre avec le Vercors, c'était le fait de ne pas le connaître. Mais j'aime aussi des fois fréquenter assidûment un endroit qu'on voit souvent. Par exemple, depuis 2 ans, je passe beaucoup de temps dans le Justin sur un autre projet, sur un territoire très, très petit que je parcours à tout moment de l'année. Tout territoire forestier, je pense, me donne envie d'aller voir.
Vous êtes un photographe très physique, donc avec beaucoup de randonnées pour aller chercher l'image.
Oui, bah, c'est un avantage. Hein. La marche, c'est quand même un très beau vecteur de réflexion et de création.
Une exposition donc jusqu'au 2 août, avec donc cette possibilité de se procurer Le Clan aux éditions André Frères. Que d'autre dire ? Est-ce que d'autres expositions sont en cours de préparation pour d'autres endroits ?
Non, bah, écoutez, moi je serais ravi de vous accueillir à Mosaïque. Donc demain, samedi 28 juin à 17h pour le vernissage, donc ensuite tout le mois de juillet. Il y a plusieurs festivals qui sont intéressés par Le Clan. Il n'est pas encore conclu, donc je n'en parle pas tout de suite. Je pense que la librairie de Chabeuil, dont j'ai à l'instant mangé le nom, sera intéressée par recevoir cette exposition plus tard. On va faire des expos sur le plateau. Le parc naturel régional est un des partenaires du projet. Il a lui-même monté une petite exposition avec ce projet, dont il se sert pour montrer les problématiques hein, entre développement, exploitation, conservation du plateau. Cette expo-là, créée par le parc, la première aura lieu pour la fête du Bleu Sassenage, qui est fin juillet, je crois bien. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site du Parc Naturel Régional. Et ensuite, moi, je vais avoir des expositions aussi cet hiver, notamment à la Maison du Patrimoine, à Villard-de-Lans. Vous pourrez trouver toutes ces infos sur mon site ou sur mon Instagram, sur Béchet Photo.
Vous avez un site, justement, intitulé benjaminbéchet.com.
Tout à fait.
Je mettrai le lien sur le site.
Merci beaucoup. Oui.
De l'émission. Ben écoutez, si, moi j'ai vu une exposition qui a lieu à Montélimar au Centre d'Art Contemporain, et c'est une exposition sur Delgado, qui est décédé récemment, avec des paysages aussi en noir et blanc. Il y a des photographes qui vous ont inspiré aussi dans ce travail, qui vous ont donné envie de...
Salgado, par exemple, a inspiré des générations de photographes. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un génie. Moi, j'ai beaucoup adoré la photographie américaine quand j'avais 20 ans, avec des noms qui sont connus, bon, plus des photographes du grand public, donc comme Gary Winogrand, Lee Friedlander, avec une vraie capacité de pouvoir regarder la société avec de l'humour, de la composition. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune.
Il y a aussi un photographe que j'adore beaucoup, un photographe tchèque, Josef Sudek. Je ne sais pas si vous connaissez.
Si, bien sûr. Ouais.
Qui photographiait beaucoup dans sa cave.
Tout à fait.
Les natures mortes, ouais. Parfois. Et ça me fait penser un petit peu ces tonalités, ces douceurs de tonalités sur vos images. On sent que le temps prend le temps d'imprégner le film.
Ah bah merci, c'est une très belle référence, ça me fait plaisir.
Benjamin, merci beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous parler de votre exposition.
Merci pour votre temps.
À Librairie Mosaïque, et je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons nous quitter peut-être aussi, à ma demande, avec un extrait de Gaspard Claus, avec son titre « Une île ». Pour vous, justement, cette chanson vous inspire un peu cette quête que vous faites vous-même?
Ouais, ben, Gaspard, c'est un copain. Une île, c'est quand même un chouette clin d'œil au Vercors. C'est un morceau dont il m'a laissé l'utilisation pour un festival. J'avais monté un petit film avec ses photos. Et voilà, c'est pour lui rendre hommage pour ce très très bel album qui s'appelle Tancade, qui est chez Infine.
Benjamin, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.